10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors vous le savez, l'islam au présent, c'est votre rendez-vous, une heure pour parler de religion musulmane tous les samedis sur Beurre FM, avec le plaisir de vous retrouver depuis toutes ces années, et puis le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun, qui maintenant qu'il a mis ses lunettes est beaucoup plus efficace.
Bonjour l'imam Abdelali. Oui, en effet, avec des lunettes j'y vois mieux, c'est surtout. Je peux pouvoir lire mes notes correctement.
Ouais, moi qui pensais que vous saviez tout par cœur. J'ai vécu longtemps dans l'illusion.
C'est pas une question de connaître, c'est une question d'avoir à l'esprit tel et tel point de vue, tel et tel argument qui peut vous échapper à un moment donné. C'est-à-dire, vous avez prévu de le dire. Par exemple, hier j'ai fait le Jumu'ah à Nir, encore une fois. J'avais plein de choses à dire, plein d'arguments à tenir. Et ben, j'en ai retenu que quelques-uns. Parce que sur le coup, on est sous la pression, le monde et tout ça, et puis voilà, on passe à côté de.
Alors après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont en freestyle, et puis il y a ceux qui ont un texte et qui se tiennent scrupuleusement à leur texte.
Non, il y en a qui sont moitié-moitié. Il y en a qui sont. C'est justement moi mon cas. C'est je suis, comme tu as dit, en free.
Freestyle.
Freestyle, bon, je suis en freestyle, comme tu dis. Et parfois, j'aime bien, pour ne pas m'échapper, m'éloigner du sujet, avoir des notes pour pouvoir revenir sur le sujet, pour m'empêcher de partir trop loin. Voilà, c'est important, ça.
T'as vu qu'on a un nouveau dans le studio ce matin?
Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu que, pour la première fois, je vois un monsieur. Mais en tout cas, il a l'air sympa.
Il a l'air sympa. Jusqu'à présent, il a l'air sympa.
Oui, il a l'air sympa, on ne sait pas.
Mais peut-être, alors après, on verra. On verra l'usage.
Peut-être qu'il tape, on ne sait pas.
On ne sait pas, on verra l'usage. Vous croyez qu'il nous l'aura porté pour le ramadan?
Tu me poses une colle.
Vous croyez? Bien, on va reprendre.
En tout cas, j'espère qu'on va passer un bon ramadan. Cette année, on était en train de voir tout à l'heure, Philippe, à quelle heure le premier jour?
6h52. Commencez pas.
6h51.
Non, qu'est-ce que vous racontez? Non.
18h51. Premier jour.
C'était pas 18h34?
Non, c'est 18h51.
Ah bah j'avais raison alors.
Oui, t'avais raison, bien sûr.
C'est vous qui m'avez dit que...
Oui, j'avais lu ça dans un autre, mais effectivement. On va commencer le ramadan et ce qui est bien, c'est qu'à partir du 20e jour...
On passe en horaire d'été.
Donc alors on va avoir un ramadan jusqu'à 8h et quelques, donc sympa, bien.
Oui. Alors après, il faut se regagner. Je remercie Aïda qui m'a aidé à préparer les horaires, à qui j'ai demandé de me sortir les horaires du mois de ramadan.
Je veux te sortir, moi, Philippe, quand tu me le demandes pas.
Parce que vous
c'est bien,
là,
je suis capable de le faire.
Merci Aïda qui a collaboré. Allez, pourquoi Mohamed était-il surnommé le prophète de la miséricorde? Et on va parler de cette valeur prophétique qu'est la miséricorde.
Tout à fait. Le prophète était un prophète de la miséricorde. C'est un de ses surnoms les plus appréciés, notamment des poètes et des savants qui faisaient l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement parce que c'est d'abord une expression divine quand il parle à son prophète et il lui rappelle, c'est lui-même qui le rappelle en lui disant wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, je ne t'ai envoyé que pour être une miséricorde pour les mondes. Donc à partir de là, ce verset met en évidence deux vérités. La première, c'est l'imprégnation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette qualité qui est la miséricorde. Elle confirme ceci en résumant sa mission prophétique en ces termes: je ne suis qu'une miséricorde offerte. Et cela s'est clairement manifesté dans ses rapports avec ses compagnons et ses détracteurs. La deuxième, c'est la miséricorde est une qualité intrinsèque à son message, dans le sens où tous les enseignements et les prescriptions de l'islam sont en soi une miséricorde pour les créatures. En parfaite concrétisation de cette miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Dieu ne sera pas miséricordieux envers lui ». Donc le message du prophète est en soi un appel à la miséricorde, un appel à que chacun devienne quelqu'un de miséricordieux. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde?
Qu'est-ce que ça veut dire d'être
miséricorde? Moi, j'aime bien la traduire par un sentiment. D'abord, c'est d'abord un sentiment qui est un amour inconditionnel et qui est répercuté par un comportement affectueux. Une mère, par exemple, elle a l'amour pour son bébé, mais cet amour, il est inconditionnel. Elle n'attend pas un retour de son enfant. Elle n'attend pas que son enfant lui rende la monnaie de ce qu'elle lui a apporté quand elle lui a donné cette miséricorde, cet amour inconditionnel. Et elle va le manifester par un comportement. par un comportement, par exemple, de protection, de chercher le confort de l'enfant, de la personne à qui elle manifeste cette miséricorde, chercher son bien-être, chercher tout ce qui est source de bonheur pour lui, tout ce qui est subvenir à tous ses besoins. Donc voilà ce qu'est une miséricorde. Dieu, bien entendu, est par excellence le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors j'utilise ces deux proverbes, c'est comme ça qu'on dit, Philippe, proverbe pour tout et très. Je sais qu'il y a Déa qui est venue là.
Qui vous a fait les poches là.
Voilà, et qui m'a fait les poches et qui veut que son anniversaire soit le meilleur de toute sa vie, hein, lundi prochain. Lundi, elle aura 11 ans, Inch'Allah, Binti. Allah
yahfadha. Alors, tout est très.
Tout est très. Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable de combler toute sa création de sa miséricorde. C'est pour cela que cet attribut qu'on appelle Ar-Rahman ne peut être réservé qu'au prophète. Qu'à Dieu, excusez-moi. On ne peut pas dire un homme est Rahman. On peut dire que Dieu seul est Rahman. Rahman, c'est-à-dire une miséricorde globale, capable de toucher tout le monde, toutes les créatures. C'est pour ça qu'on dit le tout miséricordieux. Ensuite, Ar-Rahim, et c'est bien entendu la formule de l'autre attribut de Dieu qui est en rapport avec cette même même vertu, cette même valeur qu'on appelle la miséricorde, où là on va parler de miséricorde importante, une miséricorde très très importante. Donc quand Dieu manifeste sa miséricorde, il l'a fait de manière intense. Donc il est très miséricordieux, et là on pourra dire que effectivement une maman peut être rahima, un homme peut être rahim, même un animal féroce pourra être rahim envers sa proie. Nous-mêmes pouvons-nous faire miséricorde et faire preuve de miséricorde envers les créatures qui nous entourent avec beaucoup d'intensité. Donc un homme, une créature peut être rahim ou rahima. C'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Dieu parle de lui, il le décrit, il dit en parlant aux gens, on leur dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Certes, il vous est parvenu un prophète parmi vous. Min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Qui est touché et qui est affecté et sensible, azizun alayhi ma, de tout ce que vous pouvez subir comme épreuve. Tout ce qui va vous éprouver, vous faire du tort ou du mal, eh bien lui, il va être touché pour cela. C'est-à-dire que ça va l'affecter. Azizun alayhi ma anitum. Harisun alaykum. Il est en même temps gardien et soucieux qu'il ne vous arrive rien. Harisun alaykum bil mu'minina. Et pour les croyants, raoufun rahim. Et pour les croyants, il est affectueux et miséricordieux. Voilà comment Dieu décrit son prophète. Il dit pas que rahim est un terme réservé à Dieu. Donc Dieu lui-même décrit son prophète comme étant rahim. Cela montre bien que notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un être extrêmement miséricordieux, y compris pour les animaux. Il était soucieux de qu'on ne fasse pas du mal gratuitement à un animal, qu'on ne le torture pas, qu'on ne le fasse pas souffrir. Quand il voyait des enfants malmener une poule, hein, en lui lançant des cailloux, eh bien son élève, son disciple Omar al-Khattab va les gronder et va les réprimander de faire du mal à cette pauvre poule. Il va un jour rencontrer dans les champs un chameau qui viendra se plaindre auprès de lui. Et là, le prophète dira, qui est le propriétaire de ce malheureux chameau? Et on lui dira, c'est un tel. Et on lui dit, amenez-le-moi. Quand il rejoint le prophète le réprimanda et lui dit, pourquoi fais-tu souffrir cette bête à qui tu n'accordes ni nourriture et ni repos, hein, que tu accables de travail et d'efforts, et en contrepartie, tu ne lui accordes pas la nourriture et le repos qu'elle a besoin. Donc le prophète a réprimandé ce compagnon qui ne faisait pas preuve de miséricorde envers cet animal qui avait chez qui il avait la charge. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait, il ne s'agit pas de la miséricorde de l'un de vous pour son compagnon, mais d'une miséricorde pour tous les gens, une miséricorde générale. Voilà ce qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand même il lui faisait du mal, quand même eux le persécutaient, il n'avait d'autre mot que de dire, Seigneur Dieu, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. C'est aussi la parole connue de Jésus. Jésus aussi avait cette
ils ne savent pas ce qu'ils font.
Car ils ne savent pas ce qu'ils font, voilà. Donc même quand il rentre à la Mecque miséricordieux, il aurait pu se venger de tous ses détracteurs, de tous ceux qui voulaient sa peau, qui voulaient le tuer, qui voulaient mettre fin au message du prophète et même à sa vie. Il vient conquérant avec 10 000 hommes, il est capable de se venger de tous ses ennemis, de tous ceux qui lui voulaient du tort. Et là, alors qu'il est, il n'attend de lui qu'un signe pour les massacrer, pour les anéantir, pour les exterminer, hein, il interpelle ses hommes. Et en disant, alors aujourd'hui, que pensez-vous que je vais faire de vous ? On parle du jour de la conquête de la Mecque. Et là, les hommes autour de lui, il a dit, un homme généreux, fils d'un homme généreux, ou un noble, fils de noble, diront les Mécois, qui lui faisaient du tort, et les Quraysh, comme on dit. Eh bien, le prophète leur dit, allez, partez, je vous pardonne. Hein, vous êtes affranchis, je vous libère. Il lui dit, partez, allez, vous êtes libre. Donc la miséricorde du prophète englobait tout le monde, le faible, le faible l'apercevait et la ressentait avant le fort. Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Dieu l'agrédit, le prophète entra dans la mosquée, il s'assit avec les pauvres et leur annonça le paradis. La joie se manifesta sur leur visage. Il évoqua un jour un homme noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, que devient-il ? Ils dirent, il est mort. Mécontent, le prophète dit, vous auriez dû m'en informer, montrez-moi sa tombe. Il se rendit sur sa tombe et pria sur cet homme. Il n'y avait pas de mépris, il n'y avait pas de condescendance, il n'y avait pas de... C'est ça la miséricorde, c'est se considérer l'égal des autres et ne pas avoir de sentiments d'orgueil, de prétention, de sentiments de supériorité, alors qu'il était véritablement un super roi. C'est, si vous voulez, on lui embrasserait les pieds, on lui laverait tout les pieds et tout. Tout ça, eh bien, malgré tout, il ne le faisait pas, il ne le demandait pas. Il était lui-même au petit soin des gens qui l'entouraient. Anas, fils de Malik, que Dieu l'agrée, a dit un jour, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus compatissant envers les enfants que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète embrassa un jour son petit-fils Al-Hassan, que Dieu l'agrée, alors qu'Aqra ibn Habis, chef d'une tribu, se trouvait à côté de lui, et l'Aqra dit, j'ai 10 enfants, Ya Mohammed, Ya Rasulallah, ô envoyé de Dieu, j'ai 10 enfants, je n'en ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Ajib. Il a jamais embrassé, ce fameux Aqra ibn Habis, n'a jamais embrassé, et il en est fier de le déclarer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, celui qui ne fait pas preuve de miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Ce n'est pas ma faute si Dieu a ôté la miséricorde de ton cœur. Voilà ce que dit le prophète Aqra. Ce n'est pas ma faute si Dieu a ôté la miséricorde de ton cœur, et qu'à cause de ce manque de miséricorde, tu n'oses pas embrasser tes enfants et tes petits-enfants. Voilà comment était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète se présenta un jour aux compagnons, portant sa petite fille Umama, la fille de Zaynab, donc la fille de sa fille, sur ses épaules. Il guida la prière dans cet état. Lorsqu'il s'inclina, il la posa, et lorsqu'il se redressa, il la reprenait. Il est imam dans la mosquée, et il prie avec un bébé dans les bras. Un bébé à qui il montre énormément d'affection, puisque dès qu'il a l'occasion de la reprendre dans ses bras, même dans la prière, il la reprenait dans ses bras. Sa miséricorde était telle qu'il prolongeait ou allégeait la prière par égard pour les enfants. Hein, c'est par exemple, quand il entendrait des enfants pleurer derrière lui dans la mosquée, eh bien, il ne s'attardait pas dans la prière à réciter encore plus longtemps pour que les enfants pleurent encore plus le fait que leur mère ne leur montre pas suffisamment d'affection parce qu'elles étaient occupées dans la prière obligatoire avec le prophète. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il faisait ? Il raccourcissait, il allégeait et soulageait ses enfants en raccourcissant la durée de la prière. Voilà comment était notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oussama ibn Zayd, qu'on appelait le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète, un jour a dit, un jour le prophète entra chez Sulaym, la mère de Anas. Elle avait donc un fils d'Abu Talha surnommé Abu Umayr, avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait souvent. En entrant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Abu Umayr triste. Il était en train de pleurer. L'enfant pleurait. Pourquoi ? Parce que il avait perdu son oiseau. L'enfant avait un oiseau et l'oiseau est mort. Et là, le prophète l'a consolé, l'a caressé, il lui a dit, Oh Abu Umayr, qu'a fait le petit Toiseau Romeir, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughayr. C'est une petite boutade, une petite parole douce que le prophète a dit à ce compagnon, à ce petit enfant qui était triste d'avoir perdu son enfant. Et il était jusque à ce niveau-là, il se rabaissait jusqu'au niveau d'un enfant qui pleurait d'avoir perdu son petit oiseau. Voilà comment était notre prophète, d'une humilité extraordinaire et d'une miséricorde extraordinaire. Et à travers cela, il nous demande, nous aussi, de faire preuve de prendre le prophète comme un modèle et de ne pas s'enorgueillir et de mépriser les gens faibles autour de nous. هذا ما أقوله فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Qu'Allah comble de sa miséricorde et qu'il couvre de salutations et de prières notre prophète bien-aimé Mohammed ainsi que ses compagnons et ses successeurs jusqu'à la fin des temps.
Dans un instant, Imam Abdelali, un nouvel épisode justement de la vie du prophète. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui est avec vous tous les samedis de 10h à 11h. Et chaque semaine, un nouvel épisode, Imam Abdelali, de la vie du prophète. Alors, on va revenir sur...
L'immigration.
L'immigration, l'hégira en fait.
La hijra. La fameuse hijra. Ouais. Cette hijra qui était donc une nécessité pour le prophète, puisqu'il n'était plus la bienvenue à la Mecque, menacée de mort, bien entendu. Sa tête était mise à prix. Sa propre tribu l'a abandonné, puisque son chef, son nouveau chef, Abu Lahab, et le pire ennemi du prophète, lui-même souhaiterait la mort de son neveu. Donc il n'a pas de scrupule d'abandonner, de lâcher son neveu entre les mains de ces barbares qui tout simplement voulaient le tuer, l'exterminer, mettre fin à ce message qui était, comme je le disais tout à l'heure, une miséricorde pour les mondes. Il n'en voulait pas de cette miséricorde. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoie ses compagnons, il les fait passer devant lui, il leur dit partez. Ceux qui vont rester, ce sont ceux qui ont été emprisonnés, qui ont été séquestrés dans leur demeure, notamment les enfants de Souhayl ibn Amr, etc. Et d'autres compagnons vont être privés. Alors par exemple, Omar al-Khattab, lui carrément, c'est le seul qui va quitter la Mecque sans crainte. C'est-à-dire qu'il va carrément monté sur un endroit surélevé, il va crier « Oh Quraysh, oh vous les gens de la Mecque, celui qui veut que sa mère perde son enfant, et que sa femme devienne veuve, et que ses enfants orphelins, eh bien qu'ils me suivent derrière cette vallée, qu'ils osent me suivre derrière cette vallée, qu'ils osent, qu'ils aient le courage de pouvoir me suivre parce que je vais le massacrer. » Voilà Omar al-Khattab, comment il était lui. Il avait peur de personne. C'est un homme sans peur et sans reproche, comme notre fameux chevalier Bayard qu'on a appris longtemps. Je ne sais pas si tu te rappelles, Philippe, quand on était petit. Voilà. Donc l'homme de Marignan, c'est ça, la bataille de Marignan. Bon, en tout cas, Sayyidina Omar al-Khattab était le batal, était le champion du prophète, notamment à la Mecque, avec bien entendu le deuxième de sa propre tribu, qui était Hamza ibn Abdel Muttalib. Donc le prophète, lui, bien entendu, va quitter la Mecque la nuit. Il laisse derrière lui dans son lit Ali ibn Abi Talib. Pourquoi ? Parce que le prophète était dépositaire d'un certain nombre de dépôts, c'est-à-dire d'objets de confiance, d'objets de valeur qu'on lui avait confiés avec confiance, parce que le prophète était surnommé le digne de confiance, Al-Amin. Hein, ce n'est pas pour rien. Tu sais qu'à ce qui paraît, Mohamed Amin est le nom qui a été le plus donné en France en 2023. Tu savais ça, Philippe ?
Alors, je savais pour Mohamed. Mais
Mohamed Amin.
Je ne savais pas.
C'est
Amin,
le mot composé. Ouais, ouais, Mohamed Amin qui a été le nom le plus répandu. Ça s'explique. Le digne de confiance, c'est par excellence l'un des attributs les plus nobles du prophète Mohamed. Donc, il va jusqu'à se dire non, je ne vais pas parce qu'ils veulent me tuer. Ben leur prendre leurs biens. Ils pourraient le faire. Ils mériteraient qu'il leur pique, que le prophète Mohammed prend leurs biens. Mais le prophète dit non. Même s'ils veulent me tuer, moi je reste digne de confiance, je leur rends ce que je leur dois. Et il laisse derrière lui Ali ibn Abi Talib pour réaliser cette tâche de restituer ce qu'il doit au Quraysh. Donc Ali dort dans son lit, lui il sort la nuit alors qu'il est entouré par ces fameux 40 mercenaires, on en a parlé la semaine dernière, qui tentent de le tuer. Dieu avait provoqué une somnolence dans le corps de ces personnes, de ces mercenaires. Il n'arrive pas à distinguer le prophète. Le prophète en profite, il récite la sourate Yassine. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nous avons mis en face d'eux un barrage et derrière eux un barrage, et nous les avons أَغْشَيْنَاهُمْ, c'est-à-dire nous avons mis dans un état second, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, de manière à ce qu'ils ne puissent plus voir ou observer quoi que ce soit. Et c'est ainsi que le prophète va déposer un peu de terre sur la tête de chacun d'entre eux pour prouver, pour leur prouver qu'il est passé par là. Pour dire, regardez, moi, si je voulais, je pouvais vous tuer. Vous étiez venu me tuer, ben moi, j'aurais pu vous tuer. Eh bien, je ne le fais pas. J'aurais pu le faire, mais je vous montre que je peux le faire. Regardez, je mets de la terre, alors que j'aurais pu vous mettre un grand coup de marteau ou d'épée et vous aurez tué si je voulais, mais je ne le fais pas parce que je sais que parmi vous, peut-être, il va y avoir des hommes qui vont croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il quitte la Mecque. Sans inquiétude, il quitte la maison de Khadija, qui est, je le rappelle, entourée. Alors, je rappelle que la maison de Khadija se trouve dans la partie sud-est de la Mecque. Nord-est, c'est le nord-est. Nord-est, voilà, il est dans la partie nord-est, c'est-à-dire au niveau du Marwa. Marwa, le Marwa, c'est la partie nord-ouest de la Kaaba. C'est là où il y a la maison de Khadija. Il la quitte, il descend jusqu'au Safa. C'est-à-dire, il descend vers le sud jusqu'au Safa. Ensuite, il se dirige vers l'ouest et il arrive jusqu'à la maison de Abu Bakr al-Siddiq, qui lui, elle, pour lui, sa maison se trouve au sud-ouest. Lui, il est au nord-est et son compagnon Abu Bakr se trouve au sud-ouest. C'est-à-dire aujourd'hui près de l'hôtel intercontinental qu'on appelle l'hôtel Tawhid. Donc au niveau de Tawsi'at Malik Fahd, l'extension du roi Fahd, eh bien, c'est à peu près là où se trouve la maison de Abu Bakr al-Siddiq. Le prophète donc va là-bas et il rejoint Abu Bakr qui lui est là déjà et il l'accueille avec ses deux chameaux. Il a deux chameaux et donc il part avec son chameau et avec un esclave qui s'appelle Malik ibn Fuhayra. C'était un esclave qui appartenait à Abu Bakr Siddiq et qu'il avait affranchi, donc on l'appelle ça un maoula. Donc c'est un maoula, il était sous la protection de Abu Bakr Siddiq. Donc ce compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Il les accompagne et au lieu d'aller vers le nord, là où il était recherché par les mercenaires, par les chasseurs de primes, eh bien, alors, sa tête était mise à prix. Donc, il avait 100 chameaux, celui qui pouvait amener le prophète mort ou vif. Donc, lui, il se sauve non pas vers le nord, tout le monde pensait qu'il allait aller, ben, il au contraire, il va vers le sud. Et il va environ à 3 km au sud de la Mecque, et il commence à gravir une énorme montagne, Philippe. C'est une montagne gigantesque. J'aurai peut-être l'occasion de te montrer dans des photos que je prends de cette montagne qu'on appelle la montagne du taureau, Jabal Thawr. Et tout en haut de cette montagne qu'on appelle la montagne de Jabal Thawr, alors rien à voir avec Ghar Hira, hein, ça n'a rien à voir avec la montagne de la révélation. Celle-ci a eu lieu 13 ans après la révélation, puisque la révélation c'est Jabal Nur et Jabal Thawr c'est 13 ans plus tard lors de l'immigration. Le prophète va tout en haut et il y a une toute petite grotte où est-ce qu'il va pouvoir s'installer lui et son compagnon Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr refuse que le prophète rentre en premier. Il dit au prophète, attends, reste là, je vais d'abord vérifier qu'il n'y a pas de danger à l'intérieur de cette grotte. Donc Abu Bakr rentre, il voit qu'il n'y a rien, mais il voit qu'il y a une paroi avec plein de petits trous, des petits trous. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il déchire des morceaux de tissu et il bouche les orifices de cette paroi, les petits trous de cette paroi, avec des morceaux de tissu. Mais un dernier trou, il n'arrive pas à trouver le tissu pour le boucher. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son pied dedans. Il décide de mettre son pied dedans. Et il dit au prophète, rentre. Le prophète rentre, il s'allonge. Le prophète s'allonge et il s'allonge sur les cuisses de Abu Bakr Siddiq. Et le pied de Abu Bakr est dans le trou où est-ce qu'il y a à l'intérieur un scorpion qui est en train de le piquer. Il le pique. Mais Abu Bakr ne veut pas retirer le pied du trou parce qu'il a peur que ce scorpion aille piquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'imagines le sacrifice d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, que Dieu l'agré. Et donc à un moment donné la douleur est tellement intense qu'il se met à pleurer. Il pleure, Abu Bakr pleure et une larme tombe sur le prophète. Le prophète se réveille en sursaut, il dit qu'est-ce qui se passe, il y a Abu Bakr? Et là le prophète lui dit, voilà, dans le trou il y a quelque chose qui me pique. et il enlève son pied, il voit le scorpion, il prend le scorpion, il le jette bien sûr à l'extérieur de la grotte, et le prophète met sa main sur le pied de Abu Bakr et il va guérir instantanément. Ça va être un des miracles du prophète qu'il va réaliser lors de ce voyage. Et donc il va rester 3 nuits dans cette grotte. Le prophète va rester 3 nuits. Et quand il va rester 3 nuits, Quraysh vont commencer à chercher partout. Ils vont le chercher, ce sont des centaines à chercher. Tout le monde veut la tête du prophète pour avoir la récompense. Et il y a parmi eux certains qui vont aller jusqu'à monter tout en haut de cette montagne du taureau pour essayer de trouver le prophète qui se cache. Et à ce moment-là, Sayyidina Abu Bakr commence à paniquer, il commence à avoir peur, il commence à être triste et à être affligé par le danger que représente et le péril que représentent ces Quraysh qui veulent le tuer alors qu'il est dans la grotte. Alors comment ont-ils réussi? Parce qu'ils ont constaté que Malik ibn Fuhayra, qui passait toujours derrière Asma, avait l'habitude de ramener le troupeau de moutons à cet endroit-là pour effacer les traces de Asma. Qui est Asma? Asma, c'est la fille d'Abu Bakr. Elle lui ramenait au prophète et à son père de la nourriture pendant les 3 jours, parce que pendant les 3 jours, il avait ni eau ni nourriture. Il lui fallait de la nourriture. Donc c'est Asma, protégée par Malik ibn Fuhayra, qui donc effaçait les traces avec le troupeau de moutons qu'il faisait passer derrière elle. Et donc grâce à cela, ils ont caché, mais là ils se sont dit il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi à chaque fois pendant 3 jours on voit à chaque fois ces traces de pas, ces traces de sabots de moutons, pourquoi ils sont là? Donc ils se sont dit il y a quelque chose qui se passe là-haut, sûrement. Donc ils sont montés, ils sont arrivés jusqu'en haut, et au moment où ils arrivent tout en haut, il y a cette fameuse légende qui nous laisse penser que Allah Azza wa Jal avait fait apparaître une toile d'araignée sur l'entrée de la grotte, une étoile d'araignée, donc une araignée avait tissé une toile d'araignée, et qu'un nid d'oiseau s'était installé à cet endroit-là. Donc Quraysh, voyant ces deux créatures, ils se sont dit c'est pas possible, ils peuvent pas être dans la grotte, parce que si c'était le cas, eh bien, ils auraient dû détruire la toile d'araignée et ils auraient dû détruire le nid d'oiseau. Donc, comme c'est pas le cas, c'est qu'il y a personne dans cette grotte. Donc, ils ont laissé tomber. Ça, c'est une version très faible. Par contre, ce qui est authentique dans le Bukhari, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange qui a mis son aile. Il a mis son aile comme un mur invisible. Et ce qui prouve la véracité de cette version authentique, en plus d'être authentique, c'est la parole de Dieu dans le Coran, puisqu'il dit فَأَرْسَلْنَا جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Nous avons envoyé nos soldats que tu ne pouvais voir. Donc il y a bien cette notion d'invisibilité. L'aile était invisible, et grâce à cette aile invisible, le prophète et son compagnon Abu Bakr devenaient eux aussi invisibles. Donc ils ont regardé dans la grotte, mais l'aile de l'ange étant devant l'entrée de la porte, eh bien, a rendu impossible la vision et la vue du prophète et de Abu Bakr. Abu Bakr, il était en panique, pas possible. Et là encore, le miracle de Dieu se réalise. Et là, Dieu révèle un verset au prophète et dans lequel il témoigne de ce moment intense où le prophète qui était, on va dire, à la merci de ses détracteurs, il pouvait le tuer à ce moment-là. Hein, Dieu dénonce donc un rappel et témoigne. Fait témoin de cette peur qu'avait Sayyidina Abu Bakr Siddiq pour son compagnon, le prophète Mohammed sallam. Il dira Thani athnaini idhuma fil ghar. Le deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi. Il dira à son compagnon, la tahzan, ne sois pas triste, inna Allaha ma'ana, car Dieu est avec nous. Voilà ce que Dieu rappellera et témoignera de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour consoler Abu Bakr, paniqué et triste et affligé que le prophète puisse être en danger de mort face à ces chasseurs de primes qui voulaient le tuer. Donc voilà comment il va rester ces 3 nuits à manger, à boire, grâce à Asma et grâce à Malik ibn Fuhayra, le serviteur de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ensuite, au bout de 3 jours, il quitte paisiblement et tranquillement, parce que plus personne n'a d'espoir de le retrouver à cet endroit. Il sort, et là, un troisième homme arrive, qui avait gardé les 2 chameaux du prophète, avec son propre chameau. C'est le fameux guide. Il s'appelle Abdullah ibn Urayqit. Cet homme-là est le guide, est l'homme de terrain, celui qui connaît mieux la géographie de l'Arabie et du Hijaz, et c'est lui qui va bien entendu, décider d'emmener avec lui le prophète et de prendre un chemin inconnu des caravanes, et qui est un chemin de la côte. Il va aller vers la côte de la mer Rouge. Donc il va presque longer la mer Rouge, remonter vers le nord jusqu'à Médine et arriver sain et sauf et pas pouvoir rejoindre ses compagnons à Médine. Une partie, la suite, Inch'Allah, la semaine prochaine.
Bien, vous êtes, j'espère tous d'accord avec moi pour dire que l'imam Abdelali raconte bien, avec merci. Beaucoup de vie. Alors, imam Abdelali, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, Mohamed Amin n'est pas le prénom masculin qui a été le plus donné en France, c'est le prénom composé qui a été le plus donné en France, et il vient il a dépassé Jean-Baptiste, qui était le leader depuis 1981.
Et Mohamed Amin est devenu plus que Jean-Baptiste.
Voilà, ça y est.
Et pourtant, nous, on respecte Jean-Baptiste. C'est un prophète chez nous, qui est le cousin de Jésus, qui s'appelle Yahya. Chez nous, on l'a sous le prénom de...
Même ça, c'était pour les chiffres.
Oui, c'est bien,
voilà.
C'est
une performance. Merci de le rappeler. Dans un instant, une question d'enfant. Et puis, vous retrouverez Maître Serran à partir de 11h pour C'est tout droit sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun que vous retrouvez tous les samedis entre 10h et 11h sur Beurre FM avec une question d'enfant. Certains enfants se demandent, imam Abdelali, pourquoi certains adultes jeûnent-ils avant le mois du Ramadan ?
Ah, très bonne question. Eh ben, tout d'abord, tout simplement que le jeûne n'est pas réservé au mois du Ramadan. C'est pas quelque chose que Dieu a légiféré simplement pendant le mois du Ramadan. La preuve, c'est que la première fois où est-ce qu'il légifère et dans lequel il va prescrire le jeûne, il ne dit pas de jeûner le mois du Ramadan. Il dit de jeûner. Il dit qu'il vous a été prescrit de jeûner. Dans le verset coranique, le verset 200. Attends, je sais plus combien. C'est bref, celui qui parle du pèlerinage. Voilà, cher Google, sauf que ma fille, elle est partie avec le
portable. Sourate al-Baqara.
Sourate al-Baqara, elle est connue. 183. Sourate al-Baqara. Et Dieu dit dans le Coran, « Oh vous, les croyants, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit au peuple avant vous. Peut-être ainsi réussirez-vous. » Hein, il a dit, « Naman Oukout, il va aller comme siyam. » 184 et 183 avant, non ? Il y a pas. Ah non, 184, d'accord.
Tout augmente, vous voyez, c'est l'inflation.
Voilà, c'est l'inflation.
C'est ça.
C'est vrai que même Zakat al-Fatr cette année, on l'est passé à 9 euros.
Oh putain.
Ah vache.
Non.
9 euros le Zakat al-Fatr. Ça rigole plus.
On va demander une augmentation.
Je promets,
parce que là, c'est incroyable.
Le Conseil théologique des musulmans de France, le CTMF, là, a émis la fatwa de 9 euros par personne avant la fin du Ramadan.
Ah ouais.
Bah oui, mais dit par rapport. Ils ont fait une évaluation par rapport au prix du kilo de riz qui a augmenté, et donc ils ont estimé qu'il fallait s'acquitter de 9 euros par personne, et ça c'est bien entendu le plafond, hein. Bien entendu, il existe des avis qui imposent moins, puisque il existe un avis comme par exemple chez l'école malikite que c'est le quart d'un moud, c'est-à-dire le quart de 9 euros, donc ça peut descendre jusqu'à 3 euros.
Oui.
2,50€, 3€ par personne pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais disons que cette année, de manière générale, ça sera 9€ par personne pour s'acquitter de la zakat. Par contre, la fidya pour les jours non jeûnés, dans lequel on les jours jeûnés d'une personne.
C'est toujours 5€?
Non, c'est 7€.
7€?
7€, Philippe, 7€.
T'imagines, tout
et 9
mois,
euros.
Ça fait 210€.
Ben oui, mais c'est ça, Philippe. Non, on est bien d'accord qu'il y a l'inflation qui a augmenté au moins de 25%. 20 à 25%
oui,
au total.
Sur 2 ans.
Oui, mais l'année dernière, on a été indulgent, on n'a pas évolué. Cette année, ça semble raisonnable que d'augmenter pour justement soulager la difficulté que rencontrent les nécessiteux qui ont envie d'un petit peu de moyens plus importants pour pouvoir. Mais si on a les moyens, bien sûr, je répète, t'as pas les moyens, tu suis la vie plus souple de l'école malikite qui impose seulement que 2,50€ ou 3€ par personne.
Donc pourquoi
ceux qui jeûnent, ils jeûnent d'abord parce que Dieu a demandé aux musulmans de jeûner, pas à jeûner le mois du Ramadan seulement. Il dit yaouladina manou kutiba alaykoum as-siyam, il a pas dit kutiba alaykoum as-siyam Ramadan d'abord. Kutiba alaykoum as-siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqoun. Ayyaman ma'dudat, jeûner quelques jours décomptés. C'est-à-dire, il dit jeûner quelques jours, ayyaman ma'dudat. Et donc à partir de là, nous avons cette pratique, ce rituel qui permet qui a des vertus et qui a des mérites d'apporter énormément de bien au corps et à l'esprit, car il permet aux croyants de se libérer de l'emprise de ses passions. Hein, les passions vont le lâcher et c'est sa raison et sa foi qui va prendre le dessus et lui permettre de faciliter son élévation spirituelle. Quelqu'un qui est en jeûne est moins en prise aux passions de son corps, il est libéré et donc à partir de là, il va pouvoir pratiquer, c'est-à-dire augmenter sa foi en Dieu et augmenter son lien spirituel qu'il a avec Dieu. Parce qu'on dit que c'est la nourriture qui alourdit le corps, qui te donne envie de dormir et de ne rien faire, etc. Alors que quand tu es allégé et quand tu jeûnes, on sent qu'effectivement, tu as plus de facilité à te rapprocher de Dieu et à réaliser ce lien spirituel que tu as avec Dieu à travers l'évocation, la prière, la lecture du Coran, etc. Aussi, il est important de savoir qu'un certain nombre de gens qui n'ont pas jeûné l'année précédente et qui pouvaient jeûner, c'est-à-dire qui ont guéri de leur maladie, ou qui ont accouché pour une femme enceinte, ou qui ne sont plus indisposées, parce que les femmes qui ont leur cycle menstruel, leur cycle de règles menstruelles, elles aussi ne peuvent pas jeûner. Pendant le mois du Ramadan, au moment où elles ont leurs règles, il leur est interdit de jeûner. Donc même si elles jeûnaient, leur jeûne ne serait pas valable. Donc elles sont obligées d'attendre après le Ramadan, c'est-à-dire durant l'année, pour rattraper ces jours qu'elles n'ont pas jeûné. Une femme indisposée, il faut le savoir, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Mais elle rattrape le jeûne. Elle ne rattrape pas la prière, elle n'a pas à rattraper les jours, toutes ces journées de prière qu'elle n'a pas accomplies alors qu'elle était indisposée. Mais le jeûne du Ramadan, elle doit le rattraper. Donc ils vont profiter de ces jours qui précèdent le mois du Ramadan. Et c'est souvent le cas de Oumouna Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui attendait jusqu'à Shaban pour rattraper le Ramadan de l'année précédente.
Mais là, on voit que depuis quelques jours, les gens jeûnent beaucoup plus. Hein.
Alors, pourquoi ? Parce que là, nous avons hier et avant-hier et demain. Non, hier, aujourd'hui et demain.
C'était les jours blancs.
C'est les fameux jours blancs. Ouais, on a effectivement, hier, j'ai vu une de ces pleines lunes.
La lune, elle était magnifique.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est les jours blancs, les jours de pleine lune, que le prophète a recommandé de jeûner. Et il dira que celui qui jeûne tous les mois les trois jours de pleine lune, c'est-à-dire les journées où le soir, la nuit, la lune est pleine, eh bien, c'est comme si qu'il aura la récompense d'avoir jeûné toute l'année. C'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Et le prophète dit dans un hadith, Siyamu yawmin fi sabilillah, jeûner un jour pour la cause de Dieu, pour la face de Dieu, hein, est meilleur que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Donc ça montre bien combien Allah Azza wa Jalla aime le jeûne, il apprécie ce jeûne, et personne n'en connaît la récompense si ce n'est lui. Dira Dieu lui-même dans un hadith Qudsi, un kull ibn amal ibn adam lah, hein, toute action que le serviteur accomplira sera pour lui, illa sawm, sauf le jeûne, fa innahu li wa ana ajzi bihi, il est à moi et c'est moi qui en connais la récompense. Donc c'est en même temps une préparation.
Oui, c'est comme un entraînement, finalement.
Un entraînement, ouais. Un échauffement, comme on pourrait dire, comme quelqu'un qui va entreprendre un marathon ou bien un match de foot, etc. Avant, il va s'échauffer. Il va pas rentrer sur le terrain avec les muscles froids. Pareil pour l'âme. L'âme, c'est elle aussi fait l'objet d'une éducation spirituelle. Et il y a des gens qui sont amoureux et qui ont comment on dit, la nostalgie de vivre ces moments de Ramadan. Donc, décident de jeûner avant le Ramadan, avant le Ramadan, il commence déjà à jeûner. Et le prophète était dans cet état-là. Quand il faisait cette invocation, pendant les six premiers mois après le mois du Ramadan, disait le prophète, Allahumma taqabbal minna siyamana, ou mon Dieu, agrée notre jeûne que nous avons accompli pendant six mois, et après les six autres mois, Allahumma ballighna Ramadan. Oh mon Dieu, donne-nous la possibilité de revivre ces moments de spiritualité intense. Moi, je te cache pas, Philippe, je suis dans cet état-là, moi aussi. J'aime beaucoup le mois du Ramadan. J'aime beaucoup vivre ce mois du Ramadan, surtout à Beurre FM, et surtout avec nos auditeurs et nos auditrices. C'est vrai qu'on en a un, là, je crois, qui nous attend. On en a peut-être
non,
en
non,
antenne.
Non, bah, attendez,
on va peut-être pas le prendre, mais en tout cas.
On n'a pas le temps, c'est pas qu'on veut pas.
Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas photo sur le fait que le Ramadan est quelque chose, un moment extraordinaire que les gens veulent commencer déjà à vivre par un échauffement avant le mois du Ramadan.
Voilà, parce que c'est un jeûne collectif, le mois du Ramadan.
C'est un jeûne collectif.
Là, on est en train de parler de
on se prépare en jeûnant.
Mais moi, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est autour de moi, mais que les gens jeûnent beaucoup plus avant. Enfin, en tout cas, c'est plus
de
présent.
De plus en plus.
Ouais.
Peut-être parce qu'on
fait. Déjà, là, tout le monde s'est mis à, enfin, tout le monde, beaucoup se sont mis à jeûner le lundi et le jeudi.
Oui, il y en a beaucoup qui jeûnent les trois jours de pleine lune, effectivement. Cette sunna là. Attention, il y a même un hadith qui dit que tu n'es pas obligé de jeûner les trois jours de pleine lune. C'est-à-dire que l'important, c'est de jeûner trois jours par mois. Tu n'es pas obligé de sélectionner. Donc ça veut dire que si vous ratez les trois jours de pleine lune, vous pouvez jeûner trois jours autres dans le mois. Hein, le prophète dit que celui qui jeûne trois jours dans le mois, c'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Donc il est intéressant de jeûner ces trois jours de pleine lune. C'est bien, c'est mieux. Mais si vous jeûnez trois jours dans le mois, ça suffit. C'est bien. Donc le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que ce sont les seuls qui peuvent entrer au paradis par une porte qu'on appelle la porte de Rayyan, c'est l'irrigation, de l'abreuvage, hein, traduction du mot Rayyan. En tout cas, c'est le nom de cette porte du paradis.
C'est la porte du paradis.
Qu'on appelle la porte des jeûneurs. Attention, la porte des jeûneurs. Lil jannati babun yuqal lahu Rayyan la yadkhuluha illa as-sa'imun. Voilà ce que dira.
Mais le prophète jeûnait beaucoup pendant le mois de Shaban.
Le mois de Shaban, il le disait lui-même parce que c'est le mois où les actes sont élevés au ciel.
Il jeûnait combien de jours à peu près?
Presque tout le mois.
C'est ça, okay.
Pratiquement, presque tout le mois. Pardon, pas tout le mois. Il jeûnait presque tout le mois. Et il interdisait aux gens qui n'avaient pas l'habitude de jeûner la deuxième quinzaine de jeûner. Il leur disait non, si vous n'avez pas pris l'habitude de jeûner pendant les autres mois de l'année, eh bien, il leur interdisait de jeûner les 15 derniers jours du mois de Shaban. Mais par contre, ceux qui avaient une habitude de jeûner, ben, il leur disait continuez à faire, même si le Ramadan est là, eh bien, continuez à respecter votre pratique assidue.
Une rupture entre le...
Voilà, il faut marquer une petite rupture, mais celui qui avait cette habitude, et que par exemple le Ramadan, cette année va tomber je crois un lundi, c'est ça, eh bien ouais, bon là, donc si jeûnait le lundi et le jeudi, eh bien il peut, même après la dernière quinzaine, durant la dernière quinzaine de Shaban, eh bien il peut jeûner ces lundis et ces jeudis qu'il a l'habitude de faire tout au long de l'année. Voilà pour ce qui est de la réponse à cette question. Inch'Allah, je suis certain qu'on va vivre un Ramadan magnifique cette année. Un peu court malheureusement pendant les 20 premiers jours, parce que la journée sera courte. Et...
Mais la journée n'est pas courte. En fait, la journée, elle garde le même nombre d'heures.
Ben non, elle est plus courte, Philippe.
Mais non, c'est juste qu'on déplace les heures.
Non, c'est plus court.
De combien?
Bien sûr, une heure, simplement. Tu jeûnes une heure de moins à partir du 21. À partir du 21 Ramadan, tu vas jeûner, donc ça sera le 30 mars,
faudra
31
qu'on
mars.
Faudra qu'on regarde
après le décalage horaire, tu jeûnes une heure de moins.
Faudra qu'on regarde le nombre d'heures que ça fait. Mais il n'y a pas forcément un gros décalage par rapport à ce qu'on pense.
Bah, en tout cas, les gens sont plutôt sensibles à ressentir la faim à la fin de la journée.
C'est parce que c'est plus long.
Après, que s'ils mangent pas trop ou plutôt le matin, ça change pas trop pour eux. Mais c'est vrai que
on va regarder combien ça fait en heures techniquement.
Oui, d'accord.
Mais c'est vrai que c'est plus long.
Mais en tout cas, pour notre émission qui va débuter normalement à quelle heure?
Vous en savez rien.
17h ou 18h, je sais même pas. C'est vrai que ça va pas faire grand chose. Hein. Ouais. Il va pas rester grand chose.
Imam Abdelali Mamoun, dans un instant, c'est Maître Serhan qui sera avec vous pour ses tout droits.
Mon cher Serhan, oui, effectivement.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.